Dimanche 20 mai 2012, dimanche entre Ascension et Pentecôte. Chers amis de Radio Silence, bonjour. Roger Lemann, Bible, Liturgie et Manialia Dei. Je voudrais parler aujourd'hui d'un point de la liturgie, les traductions. Écoutons d'abord Bossuet. Ô joie ineffable, nous avons une mère. La Sainte Église est notre mère, et ce que nous donne en surabondance cette mère, c'est la vie divine. Et par ce sacrement, elle ne cesse de la développer. Et cette vie divine, c'est la vie de Jésus. Et Jésus, c'est l'Église. Alors nous, nous-mêmes, comment nous définir? Nous sommes Jésus répandu et communiqué. Nous sommes, par héritage, ce que seul le Fils bien-aimé est par nature. Des fils de Dieu, des membres de l'Église, dès notre incorporation baptismale. Fin de citation de Bossuet. Ainsi, depuis mon baptême, depuis mon incorporation baptismale, pour reprendre les mots de Bossuet, je suis responsable. Et le droit canon me dit, canon 212, que j'ai non seulement le droit, mais bien plus, le devoir de m'adresser à mes frères pour leur communiquer, dans la mesure de mes faibles moyens, la parole de Jésus-Christ telle que je l'ai reçue de son vicaire sur la terre, Benoît XVI. Benoît XVI a adressé à son Église une double invitation. Combien parmi ses fidèles l'ont retenue? Première invitation. Par son motu proprio du 7 juillet 2007, Benoît XVI nous a appris que, d'une part, le missel romain promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la lex orandi de l'Église catholique de rite latin, et que, d'autre part, le missel romain promulgué par Saint Pie V et réédité par le bienheureux Jean XXIII est l'expression extraordinaire de la même lex orandi. Ces deux expressions de la lex orandi de l'Église sont ainsi deux mises en œuvre de l'unique rite romain. Et notre pape nous invite à pratiquer l'une et l'autre, chacune s'enrichissant de l'autre. Nos évêques, nos prêtres nous rappellent-ils cela? Combien même de fidèles connaissent l'existence de ces deux formes? Si je ne sais répondre, je sais qu'il est au moins, et bien plus sûrement, une église à Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois, où ces deux formes sont concomitamment célébrées, dimanche et semaine, ce qui prouve que la chose est possible. Mais je voudrais davantage m'arrêter à la seconde invitation de Benoît XVI. Cette distinction entre les deux formes ne fait pas intervenir la langue dans laquelle elles sont pratiquées. Pour nous, français, latin ou français. Si, dans la majorité des cas, forme extraordinaire va avec latin et forme ordinaire avec français, il n'en reste pas moins qu'il y a des abbayes où la forme ordinaire est célébrée en latin et des lieux de culte où le français est retenu pour la forme extraordinaire. Ainsi, forme et langue restent deux éléments indépendants. Mais lorsque l'on n'utilise plus le latin, qui reste, ne l'oublions pas, la langue officielle de l'Église suivant Vatican II, se pose la question de la traduction. Et cela a toujours posé problème. Voici ce que disait une religieuse. Je ne puis faire usage des prières de l'Église traduites. Elles sont pour moi trop insipides et trop rebutantes. Dans la prière, je ne suis lié à aucune langue, et dans le cours de ma vie, les prières de latine de l'Église m'ont toujours paru beaucoup plus profondes et plus intelligibles. Au couvent, je me réjouissais toujours d'avance quand nous devions chanter des hymnes et des réponses en latin. La fête était alors plus vivante pour moi et je voyais tout ce que je chantais. Notamment quand nous chantions en latin les litanies de la Sainte Vierge, j'y voyais successivement, dans une merveilleuse vision, toutes les figures symboliques de Marie. C'était comme si mes paroles eussent fait apparaître ces images, et au commencement, J'étais tout effrayé de cela. Mais bientôt, ce fut pour moi une grâce et une ferveur qui excitaient beaucoup ma dévotion. J'ai vu là des tableaux les plus admirables. Qui a écrit cela? La vénérable Anne-Catherine Emmerich, 1774-1824, dans sa vie, traduction Casalès, et la langue visée en ce cas était l'allemand. Les platitudes, voire l'inexactitude de certaines traductions me désolent. On dirait qu'elles s'efforcent de prosaïser et de vulgariser, au sens où ce mot vient de vulgaire, le plus possible le texte sacré. Qui a écrit cela? Le père Joseph Follier, que personne ne peut soupçonner d'intégrisme, comme le cite le père Renier dans « Missale Romanum et Missale Romain » 1975. Voici également ce que disait le pape Paul VI le 17 juin 1972. L'introduction de la réforme liturgique, qui a enrichi d'une façon admirable la connaissance de la parole de Dieu, a comporté, par la force des choses, une certaine hâte, laquelle, comme on le sait, ne favorise pas toujours la qualité des méthodes et des résultats. Le besoin existe donc d'unifier les traductions des livres nécessaires au culte, spécialement pour la célébration de la messe. Fin de citation de Paul VI. C'est dans les années 1969-70 qu'est apparue la messe en langue dite vernaculaire, du latin de la maison domestique. Malheureusement, on peut penser que dans ces années, les traductions ont été faites à la hâte et sans suffisamment de réflexion. Elles comportent des défauts. Rome en a pris conscience et en 2001 est sortie une instruction, Liturgiam Authenticam, approuvée par Jean-Paul II, réclamant la révision des traductions. On lit entre autres dans ce document de Rome: il est devenu évident que les traductions des textes liturgiques ont besoin, en divers endroits, d'être améliorées, soit en les corrigeant, soit en réalisant une rédaction entièrement nouvelle. Les omissions et les erreurs qui affectent jusqu'à présent les traductions en langue vernaculaire ont constitué un obstacle au juste progrès de l'inculturation. Il ne s'agissait donc ici dans ce document que de la messe dans la forme ordinaire. Et encore, integré et fidélitaire, la traduction des textes de la liturgie romaine n'est pas une œuvre de créativité. Elle ne doit pas dériver d'un simple souhait d'introduire des éléments nouveaux ou de la variété. Elle doit rendre de façon fidèle et exacte le texte original, c'est-à-dire sans omission ni ajout. Ce « sans omission ni ajout » est une expression biblique. Deutéronome. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien. Chapitre 4, verset 2. Apocalypse. Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de ce livre, ou si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Chapitre 22, verset 18. Les rectifications de traduction que nous attendons de nos évêques font partie, peut-on penser, de la réforme que souhaite Benoît XVI. Et cette réforme de la réforme, c'est la seconde invitation que nous adresse Benoît XVI. Au cours d'une conversation privée en 1985, je demandais à l'abbé Carmignac comment il se faisait qu'il y avait tant de mauvaises traductions. Témoin, celle contre laquelle il s'était élevé vigoureusement et avec succès en 1970. Écoutez bien, le Christ Jésus est l'image de Dieu. Mais il n'a pas voulu conquérir de force l'égalité avec Dieu. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. Ce texte figurait dans le lectionnaire officiel de 1969, bien que confinant à l'hérésie. Grâce à l'abbé Carmignac, Il fut corrigé dans les années suivantes. Traduction donc acceptée par les évêques de l'époque. La réponse de l'abbé Carmignac était que les traducteurs connaissaient le latin, certes, mais qu'ils étaient issus de la crise des années 1965-68, que leur traduction était parfois tendancieuse et que les évêques de l'époque, venant en grande partie de l'action catholique, manquaient de culture latine, exégétique, voire théologique, et qu'ils acceptaient les yeux fermés ce qu'on leur proposait, puisque cela venait de personnes se disant théologiens. L'association des amis de l'abbé Jean Carmignac adressait une liste assez longue, mais non exhaustive, de traductions jugées défectueuses. Traduction donc des textes liturgiques de la messe de Paul VI. On est en droit même de se demander si ces traducteurs d'il y a un demi-siècle n'étaient pas empreints d'une certaine idéologie, lorsque l'on constate, comme on l'a fait remarquer, je cite, la raréfaction, voire la suppression de mots tels que majestas, meritum, misericordia, clemencia, benedictas, anima, etc. Il y a là une grave atteinte à la pensée religieuse, à la spiritualité et, du fait de son caractère systématique, à la théologie. Ou encore, lorsque l'on découvre, après une étude systématique, que dans toutes les oraisons liturgiques du missel de Paul VI, où apparaît le verbe latin « mereor », c'est-à-dire « mériter », il y en a une centaine. On n'en trouve qu'une, une sur cent, où le latin « mereor » est traduit par « mériter » en français. Dans tous les autres cas, on a supprimé l'idée de mérite. Est-ce pour faire plaisir aux protestants? Citons quelques cas de traduction défectueuse. On connaît le « ne nous soumets pas à la tentation ». On connaît le « de même nature » qui depuis plus de 50 ans persiste contre consubstantialem. Que peut comprendre un non-croyant quand on lui dit que l'une des grandes vérités du catholicisme chanté solennellement chaque dimanche par tous les fidèles, est que le Fils est de même nature que le Père. Mais il y a d'autres erreurs moins flagrantes. Erreurs qui, dans notre jeunesse, nous auraient mérité en marge de nos versions latines, au moins l'appréciation faux sens. Par exemple, pourquoi traduire « Nostro Papa » par « le Pape »,« notre Pape » ne peut être dit que par un catholique, tandis que le pape est plus ouvert. Ou encore, quitolis peccata mundi, devenant qui enlève le péché du monde, le pluriel peccata devenant le péché au singulier, plus anonyme et estompant notre culpabilité personnelle. Nos péchés personnels sont ainsi noyés dans le péché de la société. Le suscipiat, tant prêtre que l'assistance, à quoi sont substituées deux phrases toutes différentes. Beatam Mariam Semper Virginem, devenue tout simplement et tout platement la Vierge Marie, et bien d'autres. Il est possible que certaines traductions différentes du mot à mot soient préférables parce que mieux adaptées aux fidèles d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous attendons de connaître la traduction française de la nouvelle version du missel romain. Celle-ci a été établie suivant les principes de l'instruction dont nous parlions plus haut, Liturgiam Authenticam, nous a dit un évêque, et l'on n'attend plus que la recognition de Rome. Au revoir.